Chapitre 38. Dans les mois qui suivent, les trois cités chimériques poussent comme des champignons dans la luxuriante forêt de Cucufa. Chaque groupe lance des expéditions vers les villages alentours, en ruines, et rapporte du matériel. Pelles, pioches, échelles, marteaux, ciseaux et même un bulldozer, un tracteur, une scie mécanique, deux marteaux piqueurs à essence et des bidons de carburant encore intacts. Ils reviennent aussi avec des vêtements, des meubles, des objets qu'ils avaient l'habitude d'utiliser lorsqu'ils vivaient à New Ibiza. La première structure à voir le jour est une taupinière baptisée Digger City, qui ressemble beaucoup à une pyramide. C'est là que s'installent les hommes taupes. Vu la quantité gigantesque de terre qu'ils arrivent à déblayer, Alice n'a pas de peine à imaginer la multitude de couloirs souterrains qui ont été creusés en sous-sol. Les nautiques ont appelé leur village Nautic City. Ils ont monté des maisons de bois sur pilotis avec l'aide des diggers, qui ont coupé le bois, et celle des aérials, qui ont porté les rondins jusqu'au bord de l'étang. En échange, les Nautix, plus forts et plus grands, aident leurs frères hybrides à construire leurs maisons, en participant notamment à la création d'un système d'irrigation souterrain sous la taupinière des diggers. Les maisons des aérials, de forme sphérique, sont posées sur les branches supérieures des plus grands arbres, utilisant eux aussi le bois coupé et taillé en planches fines par les diggers. La coopération entre les hommes taupes, les hommes dauphins et les hommes chauves-souris s'avère très efficace. La seule limite est physique. Les Nautix n'arrivent pas à pénétrer dans certains couloirs étroits de la taupinière. Les diggers ont le vertige et rendent rarement visite aux aérials. Et ces derniers, claustrophobes, n'ont guère envie d'aller sous terre ou sous l'eau. Alice et Ophélie bénéficient elles aussi de l'aide des hybrides qui leur prêtent main forte pour réparer la villa. Tous ensemble aménagent, à l'emplacement de ce qui fut jadis le parking de l'étang de Cucufa, une agora pour les réunions collectives. Au fil des jours, la vie s'organise dans la communauté. Les trois villages et les deux humaines vivent en bonne intelligence. Chaque vendredi soir, Hermès, Hadès et Poséidon, qu'Ophélie appelle ses frères, viennent dîner à la villa d'Alice. C'est l'occasion de faire le point sur l'avancée des chantiers et de proposer de nouvelles initiatives. Au comportement des trois hybrides, Alice a l'impression que les premiers-nés, qui se font parfois appeler rois par leurs congénères, sont amoureux de sa fille. Tant qu'Ophélie n'en aura pas choisi un en particulier, l'équilibre sera maintenu. Quant à Alice, que les hybrides nomment toujours « mère », elle prend son rôle de fédératrice très au sérieux. Elle continue d'éduquer les hybrides lors de cours collectifs dispensés dans l'Agora, mais aussi de débats sur l'histoire de l'humanité et sur son futur possible. Et puis, la nouvelle que tous espéraient tombe enfin. Une digger enceinte est sur le point d'accoucher. Aussitôt, Alice et Ophélie demandent à Hadès que la jeune femme soit transportée dans leur maison pour pouvoir intervenir en cas de problème. La femme digger, au ventre étiré par la grossesse, semble exténuée. À ses côtés, le futur père paraît encore plus inquiet que la principale intéressée. Il ronge ses énormes ongles avec ses longues incisives, produisant un bruit de claquement sec et de gros copeaux de cornes qui s'entassent au sol. À l'extérieur de la villa, les autres diggers se sont regroupés et essaient d'en savoir plus en regardant par la fenêtre. Tous les habitants de Cucufa sont intrigués. Enfin, on va savoir si les hybrides sont capables d'avoir des enfants, s'ils ont surmonté la malédiction des mulets stériles. « Calmez-vous, » dit Ophélie au père digger. « Maman sait ce qu'elle fait. » Puis elle se tourne vers les autres diggers qui ont, pour certains, franchi le seuil et lance « Je vous prierai d'évacuer pour laisser l'accouchement se dérouler dans les meilleures conditions. » La jeune femme digger, couchée, les jambes relevées, transpire beaucoup et respire bruyamment.
« Je sens que ça vient, »
annonce-t-elle enfin. Alice s'approche et voit en effet un peu de chair qui apparaît entre les jambes de la parturiente. « Ça y est !» Avec des gestes délicats, Alice aide à l'expulsion du nouveau-né. Et le petit digger apparaît enfin. Tout son corps est recouvert d'un fin duvet noir. Il a déjà des moustaches vibrisses et des grandes mains. Ses yeux sont clos. Il est immobile. Il n'émet aucun cri ni pleur. Alice pose son oreille sur le thorax du bébé. Aucun battement n'est perceptible. Le père se ronge les ongles jusqu'au sang. Autour, les diggers sont de plus en plus inquiets. Alice coupe le cordon ombilical, pose le nouveau-né sur une table et tente plusieurs manipulations pour essayer de lancer le cœur ou la respiration. Respire, allez, respire. En vain. Résignée, Alice se tourne vers le père et lui fait un signe négatif de la tête. Mais soudain, la maman digger y met un râle. Il y en a un autre. Tous les signes montrent en effet qu'un nouveau bébé digger s'apprête à naître. Le père est désormais figé comme une statue. Alice saisit le deuxième bébé digger avec une grande délicatesse, coupe le cordon et pose le nouveau-né enveloppé d'un linge sur la table. Lui non plus ne respire pas. Alice se remémore la technique que Simon avait employée sur Ophélie à sa naissance. Elle place sa bouche sur celle du nouveau-né digger, aspire, puis souffle profondément tout en appuyant sur la poitrine. De nouveau, c'est un échec. Une tension parcourt l'assistance. Les hybrides rassemblés devant la villa prennent peu à peu conscience que leur avenir dépend de ce qui se passe à cet instant. C'est bien la malédiction des mulets. Si les hybrides ne sont pas capables de produire des enfants viables, tout ce que j'ai accompli n'aura servi à rien. J'aurais seulement créé trois espèces éphémères, comme des mouchoirs en papier qui ne servent qu'une fois, puis qu'on jette. Mais la mère digger lâche un nouveau râle. Un troisième nouveau-né se présente. Mais combien y en a-t-il ? Alice regrette de ne pas avoir eu sous la main un appareil d'échographie. Elle aurait pu se préparer à accueillir les nouveaux-nés dans de meilleures conditions et peut-être leur sauver la vie. Malgré les soins qui lui sont prodigués, le troisième nouveau-né digger ne réagit pas plus que ses deux prédécesseurs. Ophélie le saisit alors par les pieds, le place tête en bas, le secoue et lui tape dans le dos. Alice la regarde sans réagir. Au point où l'on en est. Et le miracle se produit. Le bébé digger lâche un cri qui se transforme en pleurs. Toute la tension des spectateurs se dissipe d'un coup, comme si un orage venait de se libérer. La mère pleure de joie. Le père et Alice aussi. Elle plaque son oreille contre la poitrine et écoute. Il respire et le cœur bat. Bravo, ma fille. Ophélie est émue. Elle repère que le nez du bébé digger semble agité. Alors elle le pose sur le ventre de sa mère et le nouveau-né rampe instinctivement pour se diriger vers un des quatre tétons maternels. Son premier sens est donc l'odorat. Le bébé digger avale goulûment le lait et se calme. Son deuxième sens est le goût. Les mains agrippent les poils du ventre de la mère pour trouver la meilleure position afin de téter la précieuse boisson. Son troisième sens, le toucher. En revanche, les yeux restent clos. Alice se souvient d'avoir vu une scène similaire lorsque sa chatte avait accouché. Les chatons étaient aveugles les premiers jours, mais capables de trouver les tétons. Cependant, la femme digger grimace de douleur et ne peut retenir un nouveau gémissement. Il y en a encore un autre. Je te laisse faire, Ophélie, dit Alice. Tu m'as l'air plus douée que moi. Et c'est ainsi qu'Ophélie permet la mise au monde du deuxième bébé digger vivant, sous les applaudissements des hybrides présents pour accueillir l'heureux événement. Quel soulagement! Désormais, on sait, les hybrides peuvent se reproduire, même s'ils n'ont pas forcément 100% de réussite. Les diggers sont officiellement la première espèce humaine du futur, l'Homo subterraris. Quelques semaines plus tard, naissent les premiers aérials. Ce sont deux nouveaux-nés tout blancs avec des petites ailes, de grandes oreilles et des yeux noirs sphériques. Contrairement aux diggers, aucun mort-né n'est à déplorer. Plus tard encore, naît la première nautique. Enfant unique de taille plus importante que les autres petits hybrides, ce bébé nautique n'a pas de poils, mais une peau lisse gris-bleutée et des yeux ronds comme ceux d'un poisson. Tout en la cajolant, Alice ressent une grande fierté et une immense reconnaissance envers sa fille, promue accoucheuse officielle de la communauté. Elle ne peut s'empêcher de penser qu'elle tient dans ses bras une sorte de petite sirène, comme dans le conte d'Andersen, mais bien réelle. Entre nous, maman, je peux te l'avouer maintenant, dit Ophélie après s'être longuement lavé les mains. Je pensais que tes chimères ne pourraient pas avoir d'enfants. Maintenant que les trois espèces ont réussi à se reproduire, tous les espoirs sont permis pour l'avenir, lui répond Alice en la serrant contre elle. À l'extérieur, les piaillements joyeux des Nautix retentissent. Le monde du futur leur appartient, songe Alice. Tout peut recommencer à partir d'ici, et avec un peu de chance et de méthode, mieux qu'avant.